Vous écoutez
RMC.
Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet.
Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis 15 jours, nous parlons de Tertullien, un des pères de l'Église qui vécut au 3e siècle. Je dis père de l'Église, mais c'est un drôle de père. Mon invité d'aujourd'hui finit par cracher le morceau, si je puis dire. Il fit du christianisme, une occasion de promouvoir ses idées et ses objectifs personnels. Voilà qui n'est pas très joli, n'est-ce pas Stéphanie Binder? Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphanie Binder, vous êtes chercheuse à l'université de Bar-Ilan en Israël et vous venez de faire paraître Tertullien et moi aux éditions du CERF. Alors, j'ai pris cette citation, vous allez beaucoup plus loin que ça parce que vous vous interrogez sur quelque chose de tout à fait intéressant qui est la foi de Tertullien, et on l'a déjà dit, ça fait 15 jours que nous discutons, vous réfléchissez à qu'est-ce que c'est que la foi de Tertullien, mais aussi plus largement, qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi. Alors peut-être, d'abord, pourquoi est-ce que vous remettez en doute la foi de Tertullien ?
Tertullien ne s'attarde pas sur sa foi. Mm-hmm. Donc il est vraiment difficile de se faire une idée s'il a la foi. Un de mes arguments est qu'il serait arrivé au christianisme par anti-romanisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il s'opposait à la romanisation de l'Afrique du Nord et qu'un des outils qu'il aurait trouvé était de dire ok, les Romains sont très forts, mais Dieu est plus fort que les Romains, et que ce serait par là qu'il serait arrivé au christianisme, sans pourtant dire que sa religion n'était pas honnête ou quoi que ce soit. Tertullien est un homme intègre, très entier. Oui. Quand il se lance dans quelque chose, il y va jusqu'au bout. Donc son christianisme est devenu une véritable religion qu'il a essayé de partager, qu'il a essayé de diffuser. Mais sa porte d'entrée pourrait être de trouver un outil pour s'opposer à la romanisation.
Alors attendez, parce que c'est au cœur de votre livre, ça. Là, vous êtes en train peut-être de projeter des images du 21e siècle, un peu nationaliste, la romanisation, donc une sorte d'image d'un colon qui viendrait opprimer un colonisé. Vous êtes bien fille du 20e et du 21e siècle, là. Est-ce que c'était comme ça dans l'Antiquité ?
Alors, effectivement, cette idée a été reprise. Mm-hmm. C'est-à-dire, tout ce qui concerne l'Afrique du Nord, en réalité, est imprégné de colonialisme européen. Mm-hmm. Quand on parle d'Afrique du Nord, l'interprétation qui a été donnée même à ce qu'on a trouvé archéologiquement, mm-hmm. Ce sont des pères missionnaires qui ont fouillé les premiers Carthages. Mm-hmm. Et effectivement, leur interprétation confirme ce qu'ils pensent, oui, et pas forcément ce qu'on trouve sur le terrain. Oui. Donc oui, on a un gros problème quand on parle de l'Afrique du Nord et de la romanisation et de la colonisation de l'Afrique du Nord. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, j'ai un problème personnel.
Oui, allez-y.
Parce que il est vrai que mes expériences personnelles, mon enfance, ce que j'ai vécu en tant que lycéenne, m'ont mis sur cette voie et je me suis dit que c'était peut-être ce qui s'était passé chez Tertullien. Et maintenant, effectivement, est-ce que je lis chez Tertullien ce que j'ai vraiment envie d'y lire, ou est-ce que je décèle quelque chose qui est vraiment là, mais que je vois juste parce que j'ai vécu la même chose? Et c'est inextricable.
C'est inextricable. Est-ce que c'est grave? Est-ce que finalement, le plus intéressant, c'est Tertullien, ou c'est pas vous et Tertullien? C'est-à-dire, ce que Tertullien a à nous dire aujourd'hui, qui n'est peut-être pas ce que lui aurait dit à son époque, mm-hmm. mais ce qu'il nous dit aujourd'hui.
Ce n'est pas grave à partir du moment où on en est conscient. Ça veut dire, il faut mettre les choses sur la table, être conscient de ce qui fait, de ce qui nous fait prononcer les mots que l'on prononce, et ensuite de réenvisager la question. Sachant que oui, mon expérience me fait penser de telle façon, maintenant que je le reconnais, lisons le texte de nouveau et essayons de le lire d'une façon un peu plus neutre. Mm-hmm. Donc je pense qu'on est tout de même capable de fournir des recherches et des textes qui sont qui sont vrais.
Oui.
Pour ne pas dire objectifs,
mais
de transmettre une réalité, d'interpréter, parce qu'on finalement on ne fait qu'interpréter. Hein. Ce que je dis, c'est qu'on, même si on avait des enregistrements ou des vidéos, ça ne nous aiderait pas,
oui,
parce qu'on peut réinterpréter l'image et le texte, même quand on l'a à portée de main.
Donc, une fois qu'on est conscient de ses préjugés, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, ou de ses préjugés, préjugements.
Oui, de prendre une distance par rapport à ce que l'on reconnaît comme étant.
Et alors, justement, la foi, en l'an 2022, c'est certainement très différent de ce que Tertullien vivait. Est-ce qu'on peut se poser même cette question? Est-ce qu'il avait la foi? Qu'est-ce que c'était que la foi pour lui?
Je ne peux me poser la question que de mon point de vue à moi.
C'est ça.
Ce qui a attiré Tertullien vers le christianisme, ce sont les martyrs.
Oui.
Les martyrs qui étaient tellement dévoués à Dieu, qui étaient capables de mourir pour Dieu. Est-ce qu'il est arrivé à ce point? On ne sait pas. Il a lui-même échappé aux persécutions d'une façon mystérieuse. On ne sait pas, on peut rien dire. Ce qu'il propose est un guide pratique. Il explique aux chrétiens comment on vit en tant que chrétien. Il n'explique pas comment croire en Dieu, il n'explique pas comment avoir la foi, comment se dévouer corps et âme à Dieu. Il explique comment vivre sa vie de chrétien, être honnête, chercher la vérité, ne pas se dénier, ne pas se renier, s'opposer. Lorsqu'on attaque le christianisme, ne pas aller se cacher,
oui,
mais défendre la religion. Donc il est vraiment dans l'action et moins dans la réflexion intérieure sur la foi.
Oui. Justement, ce christianisme très extérieur, ce christianisme qui cherche des martyrs, le christianisme actuel essaie de s'en détacher parce qu'on sait où ça mène et on en voit des conséquences immédiates, y compris dans le monde arabe.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ça?
Qu'est-ce qu'on en fait?
Non, mais c'est au cœur de votre livre et mm-hmm, c'est ça que je trouve passionnant.
Oui, mais ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que je mets les événements en abîme. Effectivement, on peut regarder notre actualité à travers les anciens, mais j'évite tout au long du livre de dénouer les situations. C'est-à-dire, je n'apporte pas de solution. J'observe, constate. Ensuite, à en tirer les conséquences, je ne suis pas politicienne. Donc,
Tout à fait. Dans votre livre, Stéphanie Binder, Tertullien et moi aux éditions du Cerf, il y a un chapitre que j'ai trouvé très très intéressant, c'est le dernier, c'est la vie quotidienne au temps de Tertullien à Carthage. Comment vous imaginez Carthage?
Alors, tout à fait différente de ce que j'ai vu de mes yeux.
Oui, oui, parce qu'il faut le dire, hein, Carthage c'est donc un faubourg de Tunis, c'est un peu décevant en fait.
Oui.
Il n'y a pas grand chose à voir.
C'est un peu décevant. Et
le site archéologique est un peu moche.
Voilà, c'est un peu moche, c'est un peu... c'est pas tout à fait ce qu'on s'imagine, même quand on va voir des ruines romaines. Bon, on a une image des ruines romaines, les ruines de Carthage sont pas terribles,
oui,
à part les termes d'Antonin.
Oui,
oui, c'est effectivement décevant. Et puis, en me rendant sur place, je me suis aussi... Parce que bon, j'ai élaboré des théories qui sont des théories en l'air.
Oui.
Et en me rendant sur place, je me suis rendu compte des distances à parcourir d'un point à l'autre.
Oui.
Pour moi, dans mon idée, c'était très facile. On pouvait se retrouver d'un point à l'autre en 2 minutes. Et en réalité, pas du tout.
Oui.
La ville est très, très étendue.
Oui.
Et donc, oui, Carthage aujourd'hui n'est pas la Carthage de l'époque de Tertullien. Je l'imagine comme une ville foisonnante, cosmopolite. On a des marchands qui viennent de partout. On a sûrement des prédicateurs. Le christianisme n'est pas arrivé là par hasard.
Oui.
Les juifs sont arrivés, selon la légende, après la destruction du premier temple.
Oui.
Plus probablement après la destruction du deuxième.
Mm-hmm.
Peut-être, sûrement, on avait des petits groupements de juifs entre les deux. Les populations se côtoyaient.
Oui.
On n'a pas, quand on prend les fouilles de Carthage, on n'a pas de clivage entre les communautés.
Oui.
On ne peut pas mettre le doigt sur un quartier chrétien, un quartier juif, un quartier idolâtre. Les gens vivaient ensemble, les gens vivaient entre eux. Donc, Évidemment, c'était plus pratique de vivre les uns à côté des autres, oui. Surtout si on a besoin d'aller à la synagogue tous les matins ou de se rassembler pour prier. On ne sait pas trop où, oui. Il ne faut pas le dire, mais tout le monde le sait. Oui. Ce qui est aussi très intéressant à Carthage, parce qu'on n'a pas le droit, les chrétiens n'ont pas le droit de se rassembler pour prier. Mais on sait très bien qu'ils le font et on sait exactement où.
Parce qu'ils sont nombreux.
Et on sait exactement où. Donc ce serait vraiment simple d'aller les attraper au moment où ils sont rassemblés. Oui. Mais ça ne se fait pas. Oui. Donc on a quand même une entente qui règne. Donc les chrétiens, les juifs s'en prennent à l'idolâtrie parce que ça ne leur plaît pas. Mais d'un autre côté, les idolâtres les acceptent dans leur ville sans trop les tuer. Finalement, et puis les chrétiens sont là, les juifs sont là, et à mon avis, ils se battent un petit peu entre eux pour savoir qui aura la plus grande communauté et faire des prosélytes.
Merci beaucoup Stéphanie Binder, c'est un livre tout à fait passionnant, je rappelle le titre, Tertullien et moi, c'est aux éditions du CERF.
Merci beaucoup
de nous avoir accompagnés, et merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr.